promenade japonaise, histoire véridique d'un dragon. Un chemin escarpé et taillé dans le roc nous permet de descendre sur la plateforme où les gamins se livrent à leurs exercices de natation. Mais à notre approche, ils se sauvent. Mais la vue de quelques pièces de monnaie les ramène à nous et ils se décident à plonger. L'eau est très limpide. On voit les pieds s'agiter pendant que la tête cherche à gagner le fond. C'est la première fois que je vois des enfants japonais avoir peur des dangers et des étrangers. Il est vrai que ce sont des fils de pêcheurs un peu sauvages. En contournant l'île, nous arrivons à une large fissure dans laquelle on ne peut pénétrer qu'à marée basse. Au fond de l'anfractuosité se présente une vaste grotte étroite et élevée comme la célèbre grotte du Posilipe à Naples. Nous entrons dans cet énorme trou sombre et tout au fond nous apparaissent des reflets lumineux. C'est le petit sanctuaire qu'éclairent les bougies votives. Ce monument, ainsi présenté dans le vide noir, semble modelé dans le feu. C'est comme un temple de lumière, construit d'éclats et de phosphorescence. Il est consacré à la déesse Shinto Toyonhime, une des deux déesses qui ont inventé les vêtements. Les Japonais s'en passe si facilement que je ne comprends pas le succès que cet être divin put avoir auprès d'eux. Mais on me dit que la déesse guérit aussi des maladies, et cela m'explique l'affluence des pèlerins qui donnent de l'argent aux sacristains, lesquels font brûler beaucoup de cierges. Sur ce lieu sacré, il sent la chandelle. Les sacristains sont shintoïstes et par conséquent vêtus en laïcs, à l'inverse des bonzes qui se revêtent la tête et portent des robes de formes et de couleurs particulières. Ils sont jeunes et paraissent intelligents. Ils écrivent beaucoup. Les pèlerins accrochent à la table sur laquelle les desservants sont accroupis, les sandales de paille qui ont servi à faire le voyage. J'ai déjà remarqué plusieurs endroits à Enoshima où l'on voyait des rangées de sandales offertes en ex-voto. Une cuve de pierre sert de bénitier. Chaque fidèle s'arrose le bout des doigts avant de faire sa prière. À droite et à gauche, on a planté comme ornement deux bambous creux qui forment des vases de fleurs dans lesquels on a mis de grands rameaux verts. Au bord de la grotte, il y a des galeries étroites et basses que nous parcourons, des bougies à la main. Et au bout de chaque galerie, où on plaçait derrière les grilles de fer, des miroirs d'argent resplendissent. Or, le miroir est un symbole shinto, emblème de pureté. Cette grotte ainsi que les galeries sont d'anciennes mines d'argent. Lorsque Tsubodani, au 8e siècle, y eut l'apparition de Beten, la mine était déjà abandonnée. C'est donc par suite d'une double erreur que l'interprète me déclare que cette grotte a été creusée au XIVe siècle par Kadoso Dimi. Nous revenons à Katase en traversant de nouveau l'île dans toute sa largeur, puis passant par un autre chemin fort boisé, on se trouve dans un temple dédié à Shrinen Daimyo Zen, autrement dit, le grand Dieu éclairé aux sept visages. La consécration de ce temple a été faite par Nitran. Il en est une de ces histoires miraculeuses et surnaturelles dont fourmillent les légendes bouddhiques. En ce temps-là, Nitran vivait dans un village appelé Ivassa, du prince Kei, retiré dans une montagne du nom de Minodu. Il faisait tous les jours la lecture du livre sacré Hoikyo et expliquait les voies merveilleuses de l'univers infini. De tous côtés, on se pressait pour venir l'écouter et un grand concours de peuple assistait à ses sermons. Parmi les auditeurs les plus assidus figurait une jeune villageoise qui, à la plus rare beauté, joignait les manières les plus distinguées. On fut étonné de voir, au milieu de campagnards, une jeune fille si bien élevée et si belle. Aussi les commentaires allaient bon train et les superstitions les plus fantaisistes se faisaient jour. Nitiren, qui connaissait et les choses du monde naturel et les mystères du monde surnaturel, n'eut pas de peine à deviner que son disciple féminin était un génie incarné. Il comprit le danger qu'il courait lui-même, car ses ergues possèdent des charmes particuliers pour troubler l'âme des humains. Et Nitren, la prudence et la chasteté même, se sentait ébranlé en présence de la belle personne. Un jour, il lui adressa la parole subitement, après avoir prononcé les beaux effets et les gestes qui paralysent les pouvoirs des Zengue. « Tu n'es pas une femme !» s'écria-t-il. « Je t'ordonne de montrer ta terrible véritable nature !» et de faire cesser les incertitudes de la foule. La jeune fille, alors, demanda une simple goutte d'eau. À côté de Nitren était un vase à fleurs. Le prêtre, retirant la fleur, jeta l'eau de vase à la figure de cet étrange être. Aussitôt, les montagnes se couvrent de nuages, le tonnerre gronde, l'orage éclate, et la jeune fille, reprenant sa forme véritable, devient un dragon à sept têtes. Le dragon s'élance sur un rocher et s'adressant au peuple assemblé, « Je demeure depuis longtemps dans cette montagne, dit-il. Grâce aux lois naturelles de l'univers, j'ai pu entendre le Yokiyado. Je jure de protéger éternellement. » Et il disparut. Mahomet raconte que les génies et les anges, ayant entendu par hasard lire le Coran, s'écrièrent « Oh, voilà une lecture admirable !» On voit que les dragons japonais ne sont pas moins sensibles à la lecture des bons livres.